Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent et Jésus commença à les enseigner en disant « Suivent alors les 9 béatitudes qui sont une introduction au grand discours qu'on appelle plus communément et que vous connaissez tous, le sermon sur la montagne. » Ici, 3 endroits sont évoqués. La région immense d'où vient la foule qui s'est rassemblée autour de Jésus et de ses disciples. C'est toute la Palestine, symbole de toute la terre habitée. Il y a ensuite un deuxième endroit. La foule est rassemblée en un lieu où elle a trouvé Jésus. Elle demeure à cet endroit alors que Jésus s'en écarte. En effet, Jésus, lui, se dirige vers la montagne, troisième lieu. Là, la foule ne l'accompagne pas. Seuls les disciples montent aussi sur la montagne et s'approchent de Jésus qui va les enseigner. Jésus, donc, ne va pas enseigner à la foule qui est restée en bas, mais aux disciples. C'est à eux seuls que le sermon sur la montagne est adressé. Car appelés à vivre ces béatitudes, les disciples devront être le sel et la lumière du monde parmi la foule qu'ils vont retrouver en redescendant. Et ce texte du sel et de la lumière suit juste notre passage. Au premier plan, donc, Jésus. La montagne où il se trouve évoque tout à la fois sa dignité et sa mission. En bas, la foule, le peuple, l'humanité. Apparemment éloignée, la foule est proche, puisque c'est à elle que les disciples seront envoyés plus tard. Et entre les deux, jouant un rôle de passerelle, les disciples. Auditeurs privilégiés du message de Jésus, ils auront la charge d'en être les témoins vivants au milieu de toutes les femmes et de tous les hommes. La montagne, vous le savez, c'est le cadre où Moïse a proclamé aussi la loi de Dieu dans l'Ancien Testament. Et cette loi a été la boussole pour tout le peuple. Jésus ici donne une nouvelle boussole à ses disciples. Alors, est-ce qu'il suffit des béatitudes pour organiser le monde? Bien sûr que non. Jésus s'exprime comme un prophète qui rend Dieu proche et qui provoque les hommes pour accueillir le salut et le règne de Dieu. En disant ces béatitudes, Jésus dit le sens de la vie. Il en donne l'esprit qui permettra aux disciples de construire leur vie. Aujourd'hui, les disciples rassemblés autour de Dieu et de sa promesse, c'est nous. Et celui qui parle, c'est Dieu. Qui oserait dire en effet « Heureux ceux qui pleurent aux endeuillés ». Qui oserait dire aux persécutés, heureux ceux qui souffrent? Qui oserait? Aucun de nous, bien sûr. Mais ce n'est pas nous qui parlons, c'est bien Dieu qui nous parle. Et Dieu, vous le savez tous, est infini, indicible, incompréhensible. Mais nous pouvons être heureux parce que c'est Dieu, lui-même, qui nous proclame heureux. Dieu nous a redit au début de ce culte notre enracinement dans le pardon qu'il nous donne. Et il nous instruit. Il nous parle tels que nous sommes, plus ou moins riches, plus ou moins pauvres, tous pécheurs, avec nos joies et nos soucis. Heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont persécutés. Ces béatitudes sont un appel. Soyez heureux, puisque vous vivez de moi. Soyez heureux, puisque vous êtes mes enfants. Quand Jésus commence son ministère en Galilée, c'est le petit peuple qui l'entoure. Il n'y a pas de riches ni de notables, mais des malades, des infirmes, des gens sans travail, des femmes pas toujours bien vues, des enfants, des marginaux, tous ceux qui n'étaient pas selon l'ordre et la morale des bien-pensants d'alors. Les voyants écrasés par la pauvreté, découragés par les difficultés, arrachés et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger, Jésus leur dit « Vous aussi, vous pouvez être heureux. Car le bonheur n'est pas d'abord affaire de richesse, de pouvoir ou de rang. Soyez heureux, vous les pauvres. Faites-vous un cœur de pauvre, un cœur humble et sans prétention, un cœur disponible. Que vos mains soient toujours ouvertes, prêtes à donner autant qu'à recevoir. Soyez heureux, vous les doux. Soyez tellement tenaces dans votre douceur que vous laissiez tomber toute pensée d'agressivité. Soyez heureux, vous qui pleurez, vous qui vous sentez personnellement atteint par toutes les souffrances. Soyez heureux, vous qui avez faim et soif de justice, de vraies relations entre les hommes et Dieu. Soyez miséricordieux, sachez oublier le mal sans rechasser la rancune. Laissez le passé au passé. Sachez goûter la joie du pardon et de l'amitié retrouvée. Soyez des artisans de paix. Ne vous résignez pas devant les divisions et les brouilles. Et si l'on vous contredit, si l'on vous met des bâtons dans les roues, cela arrivera. Quand on ne se résigne pas devant le mal, quand on se refuse à utiliser d'autres armes que la douceur et le pardon, on s'expose à recevoir des coups. Mais alors même, soyez heureux, soyez tenaces. Le message de Jésus, sa bonne nouvelle, n'est pas un programme politique. Les béatitudes ne sont pas seulement paroles de prophètes. Elles proclament un bonheur qui vient avec celui qui l'annonce. Un bonheur qui est offert à qui veut bien le suivre, à qui veut bien le vivre. La lecture du prophète Sophonie donne une lumière sur le message des béatitudes. Sophonie exerce son activité à Jérusalem à la toute fin de la royauté. Comme je vous l'ai dit, c'est une période de crise profonde. Et le prophète annonce l'intervention de Dieu contre son peuple devenu infidèle. Mais il y a aussi une promesse. Un petit reste, lui, sera fidèle. Un peuple petit et pauvre restera. Cherchez le Seigneur, cherchez la justice, cherchez l'humilité. Heureux les pauvres de cœur. La langue hébraïque ne connaît qu'un seul et même mot pour désigner la pauvreté et l'humilité. Ce mot exprime l'idée d'être courbé. Les pauvres, les humbles, ce sont ceux qui ne peuvent se sortir d'affaires tout seuls et qui sont dépendants. L'humilité, c'est l'expérience d'une pauvreté spirituelle, d'une disponibilité envers Dieu. Cherchez l'humilité, c'est-à-dire ne comptez pas seulement sur vos propres forces en pensant pouvoir vous passer de Dieu et des autres. Cherchez l'humilité, c'est accepter un renversement des valeurs, accepter d'être pauvre devant Dieu. C'est dans la mesure où devant Dieu le croyant prend conscience du fait qu'il est démuni, qu'il peut saisir et accueillir le projet de Dieu pour lui et pour le monde. Cherchez l'humilité, c'est savoir dire tout simplement « Seigneur, viens à mon secours, j'ai tellement besoin de toi. » c'est vivre la justice, cette attitude harmonieuse de l'homme devant son Dieu. C'est vivre l'harmonie de juste relation où chacun a sa place. On considère parfois les béatitudes comme un idéal impossible à atteindre, une vision qui serait atteinte dans l'au-delà, dans le royaume des cieux. On a tort. Les béatitudes sont un appel pour notre aujourd'hui. Elles sont une provocation, une porte ouverte pour faire venir le royaume de libération et de paix proclamé par Jésus. Les béatitudes ne se réduisent pas à un programme humain, comme si la venue du royaume dépendait de nos propres forces. Elles proposent une exigence de vie dont chacun doit trouver les modalités. Mais elles affirment que l'initiative en revient à Dieu et que le courage pour les vivre est donné par Dieu. Le royaume des cieux est déjà là, nous dit Jésus. Et en même temps, il y a encore tant à faire, tant à dire, il y a encore tant à être. Heureux sommes-nous, nous qui sommes appelés fils et filles du Dieu Sauveur. Heureux sommes-nous. Le saviez-vous ?